Mes frères bien-aimés, l'âme humaine est ainsi faite qu'elle préfère quand les choses sont claires et nettes. Dès qu'il y a un peu de mystère, un peu de difficulté, dès qu'il faut du temps, de la finesse, notre âme hésite à y aller. Aussi, quand elle lit les versets évangéliques, notre âme penche naturellement vers une interprétation simpliste et littérale. Et voilà qu'elle affirme, à la suite de l'évangile du jour, que pour obtenir une récompense au ciel, il faut être pauvre, il faut avoir faim, il faut pleurer et il faut être haï. Par contre, pour ceux qui sont riches, pour ceux qui sont repus, pour ceux qui rient, pour ceux de qui l'on dit du bien, c'est tout le contraire qui les attend, pas de récompense et des regrets éternels quant à leur vie passée. En un mot, il faut être triste sur terre pour plaire à notre Père du ciel. Mais alors, si c'est le cas, dites-moi, pourquoi est-ce que Jésus a multiplié plusieurs fois les pains pour rassasier les foules? Pourquoi est-ce qu'il a essuyé tant de larmes en guérissant les malades et en chassant les démons? Ses actions iraient-elles à l'encontre de ses paroles? Bien sûr que non. Aussi, c'est notre interprétation littérale de ses paroles qu'il faut revoir et, une bonne fois pour toutes, mettre de côté cette vision doloriste de la religion, selon laquelle plus on souffre, plus on est uni au Christ. C'est faux, faux et faux. De même, et c'est là un autre écueil à éviter, il est erroné d'interpréter ses propos christiques dans l'esprit de la lutte des classes. Le Christ serait alors pour les pauvres et contre les riches. Certains théologiens, notamment au XXe siècle, ont alors affirmé qu'il fallait défendre les pauvres contre les riches et, si nécessaire, user de la violence. Là encore, c'est être complètement à côté de la plaque. Car si les pauvres deviennent riches grâce à notre action, ils deviennent malheureux selon l'Évangile et le serpent se mord la queue. Non, le christianisme n'a pas pour but la solution des questions sociales. Sinon, notre Seigneur n'aurait pas donné les béatitudes, mais il aurait dit « Heureux les riches ». Heureux ceux qui sont rassasiés, etc. Bref, pour comprendre les quatre béatitudes et les quatre malédictions que l'on trouve chez saint Luc, nous devons donc avoir recours non à une interprétation littérale, mais à une interprétation spirituelle. Et vous allez voir, tout apparaît alors logique. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Le Christ ne parle donc pas ici de la pauvreté matérielle, mais de la pauvreté spirituelle. Vous les pauvres, vous qui reconnaissez que sans moi vous ne pouvez rien, heureux êtes-vous, car je plonge alors dans votre âme pour combler ce vide, je vous dote de ma royauté et mon royaume est à vous. Mais vous les riches, vous qui êtes imbus de vous-même, vous qui n'attendez rien, ni de moi, ni des autres, malheureux êtes-vous. Car vous avez déjà votre consolation, c'est vous-même. Une consolation à la mesure de votre humanité, petite et limitée. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Mais quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Le Christ ne parle donc pas ici de la faim corporelle, mais de la faim spirituelle. Vous qui avez faim, vous qui espérez une autre vie que l'actuelle, une vie où la justice et la charité soient reines, heureux êtes-vous. Car lorsque vous mourrez, vous obtiendrez cette vie tant désirée. Mais vous qui êtes repus, vous qui êtes comblés par votre vie actuelle et par vos réussites personnelles, vous qui n'avez pas faim pour ceux qui connaissent des existences difficiles, malheureux êtes-vous, car lorsque vous mourrez, votre cœur, que vous n'aurez pas ouvert aux dimensions de la vie éternelle et qui ne sait pas se réjouir du bonheur des autres, votre cœur aura faim de vos succès passés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Mais quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Le Christ ne parle donc pas ici des larmes physiques, mais des larmes mystiques. Vous qui pleurez, vous qui êtes dévastés par votre propre péché et par celui de l'humanité, vous qui versez des larmes en voyant mon cœur être déchiré avec dédain, heureux êtes-vous. Car lorsque vous entrerez au paradis, lorsque vous verrez le mal anéanti pour toujours, votre cœur bondira de joie. Mais vous qui riez, vous qui regardez le mal autour de vous sans réagir, vous qui pouffez quand quelqu'un se fait humilier, vous serez en deuil quand vous arriverez au paradis et que vous verrez tout le mal que vous avez laissé prospérer. Quand vous comprendrez que n'ayant pas combattu le mal, vous avez favorisé ses desseins maléfiques. Heureux êtes-vous quand les hommes vous excluent à cause du Fils de l'homme. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Le Christ ne parle donc pas ici d'une exclusion sociale, mais d'une exclusion mystique. Vous qui êtes haïs à cause du Fils de l'homme, vous qui êtes dans le monde sans être du monde, vous qui défendez ma divinité et mes paroles, même si cela vous coûte des insultes dans les cœurs de ceux qui vous côtoient, heureux êtes-vous. Car lorsque vous paraîtrez devant mon Père, c'est moi qui vous défendrai. Mais vous, dont tous les hommes disent du bien, vous qui recevez des éloges pour votre libéralisme et votre tolérantisme, vous qui ne montez pas au créneau quand ma personne et mon Église sont traînées dans la boue, malheureux êtes-vous, car lorsque vous paraîtrez devant mon Père, c'est seul que vous devrez vous défendre, puisque vous n'aurez pas voulu de moi. Voilà, frères bien-aimés, comment nous devons comprendre le message du Christ. Et ne croyons pas que cela le rend plus facile à vivre, parce que dorénavant, nous pourrions lui plaire tout en étant matériellement riches, tout en étant matériellement repu, tout en riant physiquement et tout en vivant physiquement intégré dans la société. Ne nous trompons pas, l'exigence est tout aussi haute et demande une réelle conversion de nos cœurs. Prenons la première béatitude, celle de la pauvreté. Est-ce que nous demandons tous les jours l'aide de Dieu en invoquant son Esprit Saint? Est-ce que nous acceptons de dépendre concrètement des autres sans que cela nous agace? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes riches et que nous avons déjà notre consolation. Prenons la deuxième béatitude, celle de la faim. Est-ce que nous nous battons pour ceux qui sont victimes d'injustice, comme s'il s'agissait de nous-mêmes? Est-ce que nous menons notre existence terrestre en vue de notre existence céleste? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes repus et que nous aurons faim. Prenons la troisième béatitude, celle des pleurs. Est-ce que nous menons la bataille contre nos péchés en allant nous confesser régulièrement? Est-ce que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir quand une personne de notre entourage sombre dans le désespoir? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous rions maintenant et que nous pleurerons. Enfin, prenons la quatrième béatitude, celle de l'exclusion. Est-ce que nous défendons avec calme, mais avec passion, notre Seigneur et la Sainte Vierge lorsque nos collègues se moquent d'eux? Est-ce que nous aimons notre pape de tout notre cœur, même s'il ne correspond pas à nos goûts? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes des faux prophètes. Ah, mes frères, je crains fort que nous soyons très loin de mettre en œuvre ces quatre béatitudes qui nous permettent d'éviter les quatre malédictions correspondantes. Changeons la donne en prenant dès ce matin une des quatre béatitudes que nous tâcherons d'appliquer dans notre vie quotidienne. Allez, ne permettons pas que le Christ ait parlé en vain et incarnons donc une de ces béatitudes. Amen.